irons-nous demain ? Par Jean-Pierre Esrampe. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule architecture criminogène. Donc, ce n'est pas une variante de faites entrer l'accusé, et ne vous affolez pas de ce titre d'architecture criminogène. Nous allons essayer de remonter à l'origine de ce concept, qui date d'une trentaine d'années, je pense, et on l'avait entendu pour la première fois, semble-t-il, dans la bouche d'un homme politique français qui était Michel Rocard, qui a été Premier ministre et qui avait employé ce mot pour parler de l'architecture de l'après-guerre des grands ensembles. Après, ce mot a eu un grand succès et on l'a entendu dans la bouche d'hommes politiques, pas uniquement de gauche, mais de droite, notamment M. Balladur l'employait aussi. Et c'est un mot qui est devenu un concept avec des conséquences politiques dont nous allons parler aujourd'hui. Alors on pourrait dire que les architectes puissent s'indigner, qu'on puisse penser que l'architecture puisse générer le crime, puisqu'il s'agit étymologiquement de cela. En fait, tout à fait non, les architectes n'ont pas du tout crié contre cela, parce que certainement ce concept les intéresse. Je vais vous dire pourquoi. Bon, d'abord, ça donne l'impression d'être un démiurge, puisque ça donne un pouvoir à l'architecte d'avoir une architecture qui peut inciter au crime, comme ça peut inciter aussi à être heureux. Donc l'architecte aurait un grand pouvoir. Puis aussi, il y a certainement des arguments qui sont plus prosaïques par rapport à la génération précédente qui a été responsable des grands ensembles. C'était une manière de promouvoir la démolition de ces bâtiments. Et nous verrons que c'est le centre du sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, c'est assez curieux parce que penser que l'architecture puisse générer le crime, c'est en quelque sorte penser que les acteurs du crime, c'est-à-dire les habitants, ne seraient que des victimes et ne seraient pas eux-mêmes des coupables. Donc c'est une espèce d'inversion assez curieuse qui donnerait aux objets inanimés une âme. Donc on sait que c'est assez à la mode aujourd'hui, où on parle beaucoup de la planète qui souffre ou qui agonise ou je ne sais quoi. On est tout à fait dans cet animisme. L'animisme, c'est justement cela, de donner aux choses une âme. Donc, ce concept est assez inquiétant, comme je vous disais, puisqu'en fait, c'est aussi, ça peut dériver sur ce que l'on a pu appeler, par exemple, l'architecture fasciste, parce qu'elle avait été construite au Troisième Reich, avec aussi des raccourcis historiques faisant de l'architecture néoclassique ou de cette l'architecture des années 30 une architecture qui était symbolique de l'oppression nazie. Bien sûr, les bâtiments n'ont rien à voir et les bâtiments sont neutres. Alors, c'est vrai que le concept d'architecture criminogène a comme parallèle d'avoir aussi l'architecture vertueuse. Et aujourd'hui, c'est très à la mode, l'architecture vertueuse. Et on attribue à l'architecture à la fois les problèmes d'énergie. Et on entend comme chiffre que 45% de l'énergie de notre pays et l'architecture et les bâtiments en sont responsables. Alors, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à mon propos. Alors, soyons bien clairs, les bâtiments ne sont responsables de rien. Ce sont les habitants qui consomment et un bâtiment qui est vide ne consomme rien. Donc, il n'y a pas d'architecture qui consomme de l'énergie, ce sont les appareils électriques dont se servent les habitants, qu'ils soient ménagers, qu'ils soient industriels, et là aussi, c'est un excès de langage. Bon, je ferme la parenthèse sur le sujet. Mais ça nous renvoie à quelque chose qui est important, c'est cette différence qu'il peut y avoir entre justement le contenant, le contenu, c'est-à-dire le contenu c'est les habitants et le contenant c'est les édifices. Alors la politique de la ville qui découle justement de cette conception de Michel Rocard en disant là, il y a une architecture criminogène, donc il faut la changer. Alors il faut la changer en l'améliorant et puis d'une manière plus radicale, ça a été en la démolissant et en la remplaçant par une autre qui, elle, effectivement, serait celle du bonheur et qui n'inciterait pas au crime. Donc on a fait une politique de la ville dont l'essentiel est la démolition et qui est dans un mélange de politique sociale, de politique de démolition, d'embellissement. Et depuis 30 ans, c'est des sommes pharaoniques qui sont déversées dans les villes françaises. Et je dois dire que cette politique-là, si on regarde la situation aujourd'hui des quartiers dits sensibles par euphémisme, bah, ça n'a pas fait de grands progrès et ça n'a pas produit des bénéfices. Alors, vous me direz, on aurait pu faire autrement, et quoi donc ? Alors, je vais prendre un exemple qu'on va chercher à l'étranger. Et aux États-Unis, alors vous savez, les États-Unis, c'est un pays où il y a effectivement beaucoup d'argent privé et moins d'argent public, notamment pour ce type de politique. Donc, les Américains, qui n'ont pas tous les défauts, ont ouvert un débat à peu près au même moment où on parle d'architecture criminogène, leur problème de, c'est pas le problème des banlieues, mais c'est plutôt le problème des centres-villes et des quartiers. Des quartiers noirs qui sont dans un état de misère sociale, dans un état de violence, et donc il fallait qu'il y ait des politiques mises en place. Alors là, on s'est posé la question d'un débat qui s'est appelé « People or Place ». Alors « People », c'est les gens, et « Place », c'est l'endroit, c'est les lieux. Donc on se posait la question, faut-il donner de l'argent pour une politique sociale, ou faut-il donner de l'argent pour l'amélioration des lieux, des logements, de l'urbanisme, etc. Alors, dans le pragmatisme américain, et notamment financé par des fondations comme la Fondation Ford et autres, on a fait des expériences comparatives, c'est-à-dire que on a pris des quartiers, on a mis de l'argent pour les uniquement pour la politique sociale, puis on a fait en parallèle des quartiers où on n'a pas mis de l'argent pour la politique sociale et on a mis de l'argent pour faire des changements urbains considérables. Alors il est évident que la politique sociale, c'est quelque chose d'assez large, c'était sur l'emploi, de trouver ou d'imposer des quotas raciaux aux entreprises, d'avoir aussi des bourses pour l'enseignement supérieur. Enfin, il y avait une politique sociale qui a été qui appelée discrimination positive, affirmative action, pardon, en anglais. Et alors, on a comparer les résultats. Alors, il est évident que les fonds privés américains, ils veulent avoir des résultats rapidement et savoir où ils mettaient l'argent et s'il fallait, quelle politique il fallait continuer. Eh bien, le constat a été particulièrement clair. Ça a été là où il y a eu les politiques sociales, où il y a eu des améliorations, une baisse de la criminalité, une amélioration de la vie des gens. Et les politiques urbaines architecturales, ben, ça n'a pas eu d'influence sur les populations. Et donc, il y a eu à ce moment-là, justement, des lois et des politiques qui ont amplifié, ce qui n'a pas empêché, bien sûr, de faire des améliorations urbaines, mais en tout cas, l'argent, essentiellement, a été mis là. En France, on a mélangé tout cela, et puis comme c'est de l'argent public, ben on continue à déverser de l'argent public. Par exemple, aujourd'hui, à Toulouse, il y a une politique de démolition sur les quartiers, sur le Mirail, et j'ai vu une carte récemment de ce qui va être démoli. Bon, on pourrait quand même se poser la question sur ce type de politique, et depuis 30 ans, quand on voit surtout l'argent qui a été dépensé, les milliards d'euros qui ont été dépensés, et le très peu de résultats qu'il y a eu en face. Donc, nous allons parler dans la deuxième partie de la chronique des problèmes plus précis qui sont ceux de nos banlieues, puisqu'en fait vous avez bien compris que le sujet de l'architecture criminogène était bien sûr le problème des quartiers sensibles et de ce que l'on appelle les banlieues. Cette musique douce, qui effectivement n'est pas du tout en rapport avec la violence de l'architecture criminogène et du propos d'aujourd'hui, c'était Baptiste Troutignon, qui est un pianiste français. Et le morceau s'appelait « Here, There and Everywhere », ce qui effectivement veut dire « ici, là-bas et partout ». Donc c'est lié justement à notre sujet de territoire. Donc, je reprends le sujet d'architecture criminogène et le sujet de la violence qui est liée au crime et de pensez aussi que la solution de la démolition de ces architectures est une grande violence. Je parlais récemment avec quelqu'un qui avait vécu à Metz, dans une enfance heureuse, dans ces grands ensembles de l'après-guerre, et qui me disait qu'il éprouvait une douleur au fait que son quartier avait été rasé, qu'il n'y avait rien du marquage de territoire de son enfance. Et quand on a démoli, parce que la démolition est souvent faite à la dynamite, ces immeubles que l'on voit s'effondrer, il y a les populations, évidemment, qui sont autour et qui regardent ces démolitions, et on voit souvent des gens pleurer et jamais des gens applaudir. Donc c'est quelque chose de violent, et on peut s'interroger sur des bâtiments qui sont souvent, contrairement à ce qui est dit, qui ont été bien construits à cette époque-là, solides, et de voir cette politique de démolition qui est quand même, il ne s'agit pas de bâtiments vétustes, anciens, et des bâtiments qui sont relativement récents et bien construits, je me répète, et donc... il y a quelque chose qui est assez illogique sur un plan économique, et puis il y a aussi quelque chose qui est illogique sur un plan social. Alors, à se demander, et là je suis provocateur, si il y a un impensé de dire que en démolissant on supprime les problèmes, et je disais à titre provocateur dans une conférence récemment que on aurait dû, si on voulait résoudre les problèmes, il aurait fallu démolir les immeubles avec les population dedans. Bon, il est évident que c'est du mauvais esprit que je fais, mais je pense que c'est un impensé, et il vaut mieux regarder les problèmes en face, et les problèmes ne sont pas des problèmes d'architecture. Alors nous verrons dans la deuxième partie de la dernière partie de mon exposé, qu'effectivement les choses sont peut-être pas aussi simples, qu'on ne peut pas dédouaner aussi ces territoires où il y a effectivement une vision qui a été une vision utopique de cette époque, avec des conséquences par une inadaptation aux populations, et notamment les populations, les flux de migrants qu'il y a eu, les successions de migrations qu'il y a eu, et effectivement il y avait des problèmes qui étaient liés à l'urbanisme. Alors, c'est un sujet qui, aujourd'hui, devient sur le devant de l'actualité. Il y a un livre assez ancien qui avait été dirigé par Georges Bensoussan, qui avait fait pas mal de bruit à son époque, qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Donc, il s'agissait justement de ces phénomènes communautaires dont on parle. Et il y a eu récemment aussi Jérôme Fourquet, qui a écrit un livre fort intéressant qui s'appelle « L'archipel français ». Donc l'archipel français, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'unité de la nation se fractionne comme un archipel en île, et avec ce danger communautaire, de communautés qui ne se parlent pas entre elles, et effectivement cette perte de l'unité de la nation. Et François Hollande aurait fait une confidence aussi, qu'il avait peur qu'il y ait une partition, une sécession de notre pays, dans un entretien qui avait été fait à des journalistes du Monde. Donc on voit bien que ce problème territorial, qui est effectivement celui de l'urbanisme, celui de l'architecture, est pris en compte, et qu'on est certainement, même si on continue ces démolitions, on a bien compris que ce n'est pas avec des artifices architecturaux que l'on va résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus graves dans notre société. Alors, il y a des solutions qui ont... Je vous ai parlé de la politique aux États-Unis, notamment dans ces quartiers. Et il faut dire aussi que même si L'Amérique est un pays complexe et un pays où la violence est importante. Il y a eu tout de même, sur un plan de ces quartiers, moi qui ai vécu à des époques difficiles justement aux États-Unis avec les émeutes raciales, il faut dire qu'il y a eu un grand changement et de nombreux quartiers qui étaient des quartiers où on ne pouvait pas traverser si on avait la peau blanche. Aujourd'hui, il y a une plus grande pacification, même si on est loin du compte, partout. Donc on a, je pense, un phénomène d'amélioration dans ce pays-là, avec une violence qui était infiniment supérieure à celle de notre pays. Et on a, à l'inverse, dans notre pays, une violence qui ne fait que s'accroître dans ces quartiers. Donc il faudrait que ce problème soit posé, et je crains qu'aujourd'hui, les discussions politiques sur l'urbanisme, et notamment sur la campagne à venir des municipales, portent sur des coulées vertes et sur la continuité que les scarabées puissent avoir le long de ces coulées vertes, qui ne me paraît quand même pas l'essentiel des revendications de nos concitoyens, même si, paraît-il, que les sondages diraient que l'écologie est en premier plan. Alors, je n'ai rien contre la présence des arbres dans la ville, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon propos, mais je pense qu'il y a des hiérarchies et des urgences sociales qui, elles, ne peuvent pas trop attendre. Alors, j'étais en train de parler des États-Unis, je disais que il y avait le maire de New York qui s'appelait Rudy Giuliani. Alors, ce n'était pas théorisé comme je vais essayer de le faire, mais il y avait une politique que vous avez certainement entendu parler, c'était la politique du carreau cassé, du carreau ou de la vitrine. Donc, le principe de cette politique qui était effectivement faite de répression, il faut pas nier cela, mais qui était aussi sur l'apparence, et là on touche à l'architecture, c'était de dire que sitôt qu'il y avait un carreau, enfin une vitrine cassée, il fallait qu'elle soit immédiatement réparée parce que elle donnait tout de suite une sorte de mimétisme qui faisait que on allait continuer à casser. Donc c'était un aspect qui n'était pas uniquement un aspect de répression, mais qui était surtout un aspect visuel, qui voulait dire que l'espace, il s'agissait bien sûr pas d'un carreau cassé au fond d'une cour, mais de tout ce qui était visible sur l'espace urbain et sur la rue. Et donc les rues devaient être justement nettoyées, devaient être propres, devaient être sécurisées par la police, mais aussi dans un état de propreté, de pas de tag, pas de d'endroit cassé. Alors ça, c'était assez important parce que même si ça n'avait pas été théorisé comme l'espace civique de la ville, c'était tout de même cela. Donc, je vais renvoyer à une notion qui normalement fait partie de notre histoire, c'est celle de la ville romaine. Alors même si les villes romaines, il nous reste pas grand-chose, mais on en a tout de même des descriptions assez précises avec les quelques monuments qui nous restent. La ville romaine était une ville qui était pas une ville pittoresque, c'est une ville qui était sur un plan quadrillé. Alors on a pu dire que c'était une ville militaire, mais ce n'était pas que cela. Et ça, il s'agit d'une vision un peu négative. C'était surtout un modèle qui était un modèle de paix sociale dans lequel les populations diverses, et il s'agissait bien de populations diverses puisque l'Empire romain était immense, c'était toute le nord de l'Afrique, toute l'Europe, ça montait ça allait jusqu'à l'Asie mineure et ça montait jusqu'à l'Écosse. Donc c'était un immense territoire qui devait être unifié. Et les villes avaient ce rôle d'unification, avaient des populations qui étaient diverses et infiniment plus diverses que nous avons, nous, aujourd'hui, dans notre propre pays et avec des problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Donc, la ville avait un rôle. Donc, je reviens sur les propos. Alors, il ne s'agit pas de trouver une architecture miracle, mais plutôt le creux de la rue et de l'espace civique. C'était celui, justement, qui était opposé à l'espace privé, comme on avait par exemple le propos que l'on entend sur la laïcité. La laïcité, c'est l'espace public. C'est-à-dire, cet espace public, il doit être neutre et garanti de sécurité, et il s'oppose à un espace privé qui est intime et qui est celui de la liberté. Le régime totalitaire, lui, il ne fait pas la différence entre le public et le privé, et le régime totalitaire, lui, il rentre dans les maisons, il rentre dans les écoutes, et il photographie les visages, comme en Chine aujourd'hui, où ils écoutent, comme dans le film, La vie des autres sur la RDA. Donc, cette opposition public-privé, c'est certainement, elle rejoint les propos des émissions précédentes, si vous les avez écoutées, sur le centre-ville et sur une vision qui était justement auto-centrée avec ses centres et une périphérie. Il faut revenir à des axes civiques. Et la proposition que je fais par rapport justement à ces quartiers, pourquoi on ne ferait pas, et ça ne coûterait pas énormément, de faire des rues, pas en une rue principale, qui est celle justement où cet esprit civique, cet esprit de sécurité éclairé, sécurisé, traverse ces quartiers. Donc, au lieu de tout démolir, il faudrait au contraire rénover une rue et une rue centrale. Il ne s'agit pas de tout surveiller, mais il s'agit justement d'avoir un espace de référence, et la loi de la République, elle serait matérialisée et comprise dans le symbolique, comme l'a été la Pax Romana sous l'Empire romain. On aurait un espace lisible et visible pour tous, et bien sûr, ça ne coûterait pas les milliards de la politique de la ville. C'était « Où irons-nous demain ?» Merci à Hugo qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel numéro de « Où vivrons-nous demain ?»